Culture sans frontières, Anna Kubishta.
Bonjour, ravi de vous retrouver pour cette première édition de Culture sans frontières du mois d'août. Aujourd'hui, on revient ensemble dans une galerie et boutique de livres anciens qui se trouve dans le centre historique de Prague. Elle s'appelle Stichla Klika et a été créée par Jan Placák. Depuis quelque temps maintenant, une jeune Française, Virginie Béjot, travaille à ses côtés et l'aide à monter ses projets d'exposition. Leur objectif, faire mieux connaître du grand public des artistes parfois méconnus, une alternative aux grandes galeries parfois un peu oublieuses. Virginie Béjot, pour sa part, espère aussi parvenir à susciter l'intérêt d'institutions françaises. Voilà pour les projets. Tout cela pour l'amour de l'art. Rencontre. Virginie Béjot, on se trouve ici au centre de Prague, près de la place Bethléem, dans une galerie qui s'appelle Stichla Klika. C'est un petit peu difficile à prononcer. Alors Stichla Klika, c'est une galerie, mais c'est aussi une librairie qui vend des livres d'occasion, pas d'occasion.
On vend des livres d'occasion et on vend aussi de vieux livres. De vieux livres, ça veut dire 16e, 17e, 18e. Et en fait, on a prévu justement d'abandonner tout ce qui est livres d'occasion contemporains et de faire essentiellement des vieux livres.
Donc des livres plutôt pour collectionneurs?
Oui, c'est des livres plutôt pour collectionneurs et pour des personnes qui ont un intérêt certain pour ça, ouais. C'est des livres œuvres.
Est-ce qu'on pourrait un petit peu décrire l'espace dans lequel on se trouve? Là, on se trouve justement dans la galerie, hein, c'est ce qu'on disait au début. Mm-hmm. C'est une galerie qui est un peu sous terre, enfin c'est une espèce de sous-bassement, dans le sous-bassement.
Ouais, c'est ça. C'est ça, c'est une galerie dans le sous-bassement. Il faut descendre des escaliers pour y arriver. C'est un espace assez joli, je crois. Et on fait des expositions dans cette galerie tous les mois. On change. Donc tous les mois, ça tourne en fait.
D'accord. Alors, ça change tous les mois. Ce mois-ci ou cet été, cette saison, c'est Vladimir Boudnik. Est-ce que tu pourrais un petit peu me présenter Vladimir Boudnik? Qui est Vladimir Boudnik?
C'est un peintre tchèque. Il a commencé à faire des choses dans les années 40. Il a vécu la période de la guerre en Allemagne. Et ensuite, quand il est revenu, il a suivi des cours à l'école des arts et métiers à Prague. Ensuite, il était plus ou moins interdit, comme la plupart des peintres tchécoslovaques à l'époque. Et donc, il a lancé un courant qui s'appelle l'explosionnalisme, tout seul.
Qu'est-ce que l'explosionnalisme exactement ?
En fait, il allait dans la rue, dans les rues et sur les murs. Il dessinait des choses que lui inspiraient les formes, puisque souvent les murs se défraîchissaient, ouais, donc les choses tombaient. Et lui, à partir de ça, il peignait. Et il demandait aux gens qui passaient, aux passants, de regarder et de lui dire ce qu'ils voyaient. Et donc ça provoquait des discussions assez intéressantes. Des fois, ça provoquait rien, des fois des problèmes.
C'est quasiment du street art, on dirait aujourd'hui.
Ouais, du street art et des happenings. Il appelait ça des happenings. C'était pour provoquer un peu les gens et c'était aussi pour faire de l'art avec les choses qu'on a sur place parce qu'il était impossible de sortir, de voyager. Et donc il pensait à comment changer la société, la faire évoluer par l'art et que chacun en fait est capable de faire des choses artistiques.
J'imagine que ça devait pas forcément plaire aux autorités, un trublion qui faisait des dessins comme ça ou des happenings dans la rue.
Non, ça plaisait pas vraiment. Et même à certaines personnes en fait qui passaient, ça plaisait pas vraiment. Souvent, il a entendu des choses pas très gentilles sur lui et ce qu'il faisait.
Quelle vie a-t-il eu alors, du coup?
En fait, c'est quelqu'un qui était très indépendant, je crois. Il a travaillé dans des usines et dans ces usines même, il créait. Il s'inspirait beaucoup des usines, en fait, des machines, de la matière. C'est notamment la figure principale d'un roman de Bohumil Hrabal qui s'appelle Tendre Barbare, Nijni Barbar. Et souvent, les gens pensaient que c'était une figure littéraire, mais en fait, il a vraiment existé. Et il demandait aussi aux ouvriers qu'ils s'intéressent et qu'ils fassent leurs propres œuvres dans les usines. Donc, il a fait même des expositions dans les usines où il travaillait. ce qui est assez original aussi. Ici, donc, dans la galerie Stikla Keka, ce sont des œuvres graphiques que vous exposez, hein, des gravures. Est-ce que tu pourrais un petit peu expliquer comment est-ce qu'ils travaillaient et un petit peu présenter les œuvres qui sont affichées sur vos murs?
En fait, cette année à Stikla Keka, c'est une année qui est consacrée à Vladimir Bownik. Stikla Keka a sa propre collection, des tableaux et des œuvres de Bownik. On a aussi beaucoup de textes, on a aussi beaucoup de samizdat qu'il a fait lui-même, et aussi beaucoup sa correspondance. Anza Plaza collectionne depuis 30 ans Bownik, donc il a acheté petit à petit tout ça. Cette année, donc 8 expositions environ sont faites, on ne peut pas tout exposer encore. Et cette fois-ci, maintenant, cet été, c'est la 5e exposition qu'on fait. Donc, il y en a eu 4 autres auparavant. Maintenant, sont exposés des graphiques qui sont appelés structurels. Structurels dans le sens qu'ils sont plutôt explosifs et qui ne sont pas du tout structurels pour moi. Mais c'est lui qui a composé ses propres catégories. Il y a aussi actif, activni grafiche. Donc, ça veut dire avec des reliefs. Et là, en fait, les reliefs, ce sont plutôt les couleurs, les formes. C'est abstrait, et c'est très vivant. Il y a beaucoup de couleurs chaudes, beaucoup de couleurs froides. C'était quelqu'un qui créait d'une manière assez originale. Je pense que c'était une création assez physique. Il créait beaucoup avec vraiment ses mains, la matière, c'est-à-dire les couleurs, il les avait partout. il gravait sur des matrices qui étaient en métal. Et ensuite, il imprimait du papier à l'aide d'une machine qui s'appelle Satyr-Nirka, je ne sais pas en français. Donc il y a un rouleau compresseur, et il imprimait le papier de cette manière-là.
C'est intéressant quand tu dis qu'il travaille beaucoup avec la matière, enfin que c'est un côté très... Oui, on sent que la matière en regardant, parce que quand on regarde certaines de ses gravures, on sait que c'est des gravures, mais ça me fait par exemple penser ça à du métal qui serait rouillé, par exemple. Ouais, c'est tout juste si on pouvait passer la main dessus, en fait, et on sentirait en fait le côté âpre en fait sous les doigts ou un peu râpeux comme ça.
Oui, c'est vrai, il y a ça, il y a beaucoup ça, il y a en fait c'est le mélange de tous les éléments, j'ai l'impression. Il y a l'eau, la terre, le feu, absolument tout. Et c'est, par exemple, il y a des photos aussi qui témoignent de sa manière de travailler. Donc, il a été souvent dit, d'ailleurs, qu'il travaillait souvent nu, parce que c'était comme une relation tellement intense que, oui, c'était très intense, voilà. C'est aussi intéressant de savoir qu'il a pratiquement jamais eu d'exposition de son vivant, et aussi qu'il donnait les tableaux plus qu'il ne les vendait. Donc, c'était quelqu'un qui était absolument libre, ouais.
Alors, vous ne vous occupez pas uniquement de Bownik, hein. Vous essayez un petit peu de faire connaître des artistes qui sont pas très connus du grand public. Alors, je pense à Ivan Sobotka, que tu vas pouvoir nous présenter, qui avait d'ailleurs des liens avec la France, voilà, qu'on connaîtrait pas si on s'intéressait un petit peu à cette personnalité. Alors, qui était Ivan Sobotka? Est-ce que tu pourrais un petit peu décrire ses œuvres?
Ivan Sobotka, c'est un peintre qui est extrêmement original parce qu'il a vraiment suivi dans sa peinture la ligne qu'il a suivie lui en tant que personne, c'est-à-dire vers la simplicité, la modestie, vers la spiritualité aussi parce qu'il était catholique, croyant et pratiquant, mais en secret. C'est quelqu'un qui parlait pas du tout de ces choses-là. Ivan Sobotka a aussi étudié les arts. Après la Deuxième Guerre mondiale, il a rencontré à l'école Pavel Brazda, qui est aussi un peintre très connu, et Vera Novakova, qui est la femme de Pavel Brazda. Et ensemble, ils ont formé une espèce de groupe informel, artistique. Et donc, ils faisaient des choses qui étaient très expressives, très colorées, et qui étaient aussi très imprimées par l'époque, c'est-à-dire cette tournure de 48 et l'avenue du communisme et aussi l'après-période de la guerre. Et donc, c'est des jeunes gens qui sont très bouleversés et qui veulent exprimer toutes les choses qui leur sont arrivées. Vers le milieu des années 50, il a pris son chemin lui seul, et c'est-à-dire qu'il est allé vers la simplicité. Donc, il a commencé à fréquenter de plus en plus les églises aussi, et les prêtres. Aussi, il s'inspirait des littératures françaises comme Blois, qui était vraiment sa référence. Il a commencé à dessiner exclusivement, pratiquement, des portraits. Et ces portraits, en fait, représentent Marie. Elle représente aussi Joseph, tous les saints,
C'est vrai, quand on les voit, bon, déjà, ce qui frappe, c'est la simplicité, le côté presque naïf de ces portraits. Mm-hmm. Ça me fait penser à des icônes. C'est évident, enfin, quand tu dis que il était très croyant, ces visages de face, en fait.
Oui, c'est ça. Et ce qui est aussi intéressant, c'est que ces icônes ressemblent énormément aux gens qu'on connaît dans la rue, en fait. C'est que ces icônes, il les a rendues, il les a personnalisées. C'est que chaque visage qui est représenté sur ces tableaux est une personne, une personnalité différente. C'est-à-dire que Marie, en fait, elle a tout un panel de visages, et Joseph aussi. Et donc, tous ces saints et tout ce monde spirituel est devenu, en fait, le monde de la réalité, de la vie réelle. Sa peinture est très intéressante parce qu'il est allé chercher dans les couleurs, dans trois couleurs, donc le blanc, le bleu, le gris. Il est allé chercher à l'intérieur de ces couleurs des nuances. Donc, c'est-à-dire que les blancs sont devenus des milliers de blancs et les bleus des milliers de bleus. Et il a abandonné les autres couleurs. Et à l'intérieur de ces couleurs, il a cherché sa poésie.
Comment se fait-il qu'il soit si peu connu, finalement, qu'on ne le retrouve pas dans des galeries, qu'il faille faire ce travail de longue haleine pour le faire connaître,
hein? En fait, c'est quelqu'un qui n'a pas du tout exposé pendant la période du communisme. Donc, il a travaillé un peu partout et notamment dans la Galerie Nationale, où il s'occupait des tableaux, des collections. Mais il a continué parallèlement à créer lui seul, parce qu'il était aussi seul, je crois, assez solitaire. Et donc il a continué à créer, il a créé énormément, il y a des centaines et des centaines d'œuvres. En fait, les premières expositions, il était interdit évidemment pendant le régime communiste.
Et a fortiori, s'il était catholique et croyant et représentait des saints.
Je pense qu'il n'aurait pas voulu collaborer non plus avec le régime, parce que c'était une forte personnalité, qu'il savait très bien où il allait, ce qu'il voulait. Et donc, après 89, après la révolution de velours, il a commencé, on a commencé à s'intéresser à lui, surtout la revue Revolver Revue, qui lui a décerné un prix. Et quelques expositions ont été organisées, mais très peu, parce qu'il était très angoissé à l'idée d'exposer aussi. Et donc nous, à Stiklaklika, comme c'est un ami de Jan Placzak, on s'efforce de le montrer au public et de provoquer l'intérêt, parce qu'on a le sentiment que c'est vraiment une peinture de qualité.
Vous l'avez montré en France aussi ?
Oui, on a fait une exposition en juin et en juillet 2009 à Lyon, donc dans une galerie qui s'appelle la Galerie Mathieu. On a aussi fait un catalogue, je pense, franco-tchèque, qui est assez représentatif de son travail et du personnage, parce qu'il y a un entretien avec lui, qui est en français et en tchèque. Et je pense que l'exposition a reçu plutôt de bonnes critiques et un bon accueil. Donc on espère que ça va continuer et que ça pourra intéresser des gens, évidemment.